Alors, une autre guerre dont je parle, qui est également une guerre à laquelle nous participons tous les jours, et c'est la guerre contre l'environnement, la guerre contre la biosphère, bien entendu. Hein, bon, tous les thèmes sur lesquels, là encore, je ne vais pas m'étendre, sont les thèmes qui ont été abordés récemment à Johannesburg, mais tous les jours, quand nous consommons, quand nous adoptons un mode de consommation qui est basé sur une conception super productiviste de dépenses de toute une série de matières qui commencent à devenir extrêmement rares, et là encore, nous participons, bien entendu, de la destruction. Nous nions ce que pourrait être un développement durable, c'est-à-dire cette idée de laisser à nos enfants la planète Terre telle que nous l'avons reçue. Et bien entendu, on peut chacun faire le bilan de la destruction au cours de notre vie, de ce que nous avons fait. Et vous savez là aussi que si, on devait tous vivre avec le niveau de vie d'un Européen moyen, et il y aurait une possibilité sur la planète, ça ne dépasserait pas les 600 millions d'habitants. Il y a à peu près 600 millions d'habitants sur la planète qui peuvent consommer autant d'énergie que nous, autant d'eau potable que nous, autant de matières d'énergie, etc. que nous, et alors que nous sommes 6 milliards. Donc là aussi, en fait, la façon simplement dont nous vivons est une façon déjà hyper privilégiée dans un univers où les gens manquent, un univers où les gens manquent de tout. Hein. Il faut simplement songer qu'il y a 2 milliards de personnes qui n'ont toujours pas d'électricité, hein, que 4 personnes sur 5 n'ont jamais téléphoné de leur vie. Hein. Donc par conséquent, nous sommes dans un univers où ce qui nous paraît, nous, un petit peu, et à juste titre, le résultat de nos efforts, etc., de nos revendications, apparaît à l'échelle planétaire comme finalement un privilège dans la mesure où nous pouvons profiter d'une nature qui est dans l'ensemble généreuse, mais que des formes d'exploitation qui se développent menacent. Et évidemment, c'est pas ces menaces jusqu'à présent, on pouvait dire, bon, à la limite, si tous les ans, disons un territoire grand comme la Belgique de forêt disparaît, mais c'est pas très grave, il y a beaucoup de forêts. Mais on se rend compte maintenant qu'on atteint les limites, bien sûr, avec tous les phénomènes que l'on a vus, climatologiques, d'effet de serre, de réchauffement, de désertification, réduction de l'eau potable, etc. Et on voit bien que si ceci continue, même s'il peut y avoir des débats entre scientifiques, eh bien, ce sont des vies humaines, finalement. Ça se paye, comme à la guerre. Il y a des victimes. Hein. On a bien vu cet été des inondations qui ont fait des dizaines et des dizaines de victimes dans des pays développés, etc. Alors que, évidemment, si ça se passait, si ça se dépassait dans des pays moins développés, moins équipés, il y aurait eu encore beaucoup plus de victimes. Hein. Donc, par conséquent, des pays peuvent disparaître si le réchauffement continue. Les deltas peuvent disparaître. Or, comme vous savez, sur les 6 milliards d'habitants, 4 milliards d'habitants de la planète vivent sur les côtes, hein, de l'ensemble des continents. Donc si les mers s'élèvent, non seulement Venise disparaîtra, mais le Bangladesh pratiquement va disparaître, et beaucoup de pays archipels de l'océan Indien ou du Pacifique peuvent disparaître. Donc là, c'est une guerre, là encore, dont on ne veut pas dire le nom. Hein. Même nous refusons, enfin, je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui de personnes qui sont tout à fait consciente qu'il y a là un enjeu qui dépasse finalement les intérêts de chacun et les égoïsmes de chacun et qui concerne vraiment l'humanité en tant que telle, puisque c'est un petit peu finalement cette humanité en tant qu'espèce qui est aujourd'hui menacée, hein, tout simplement, l'humanité en tant qu'espèce. C'est d'ailleurs pourquoi on entend de plus en plus parler maintenant de post-humanité, hein, déjà. Et l'idée que l'on peut remplacer l'homme, finalement, hein, que l'être humain, tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire produit naturellement, si j'ose dire, c'est un peu un archaïsme, hein, et qu'il faut déjà penser à le produire soit industriellement, soit en fonction des progrès des biotechnologies, il faudra le produire biotechnologiquement, etc., et que cette idée d'avoir encore un corps vrai, etc., enfin, avec une naissance de type animal, est quelque chose qui est quand même, disons, relativement passéiste, etc. Donc, mais nous en sommes là, hein, si vous regardez un petit peu, déjà non seulement dans les fictions, dans la science-fiction, mais dans l'ensemble des réflexions qui sont faites aujourd'hui, depuis évidemment le clonage et puis le décryptage du génome humain, on est aujourd'hui au seuil précisément de la post-humanité, ça c'est tout à fait clair, hein. Et bien sûr cette post-humanité pourra vivre dans une planète ou également qui sera post-naturelle, bien sûr. Et donc de là que aujourd'hui il y ait presque mentalement déjà une liquidation de préoccupations de type écologique, et c'est pourquoi ce combat, me semble-t-il, cette guerre, me semble-t-il, est importante, et je crois que j'ai voulu insister là-dessus. Mais parlons de la guerre qui est centrale. D'abord, c'est un moment important pour en parler, parce que tout à l'heure Christian le disait, nous sommes à un moment extrêmement, de riche en termes de réflexion, parce que chacun sent bien que nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler une pré-guerre, n'est-ce pas? C'est ces moments de débat, de réflexion qui précèdent un conflit. Hein. On ne sait pas encore d'ailleurs si ce conflit aura lieu. Nous sommes un certain nombre à craindre qu'il se produise de manière pratiquement inéluctable, pour les raisons que l'on va évoquer là-dessus. Mais il faut tout faire, me semble-t-il, pour tenter de l'éviter, parce que on entrerait réellement dans un univers où les choses changent.